attention, non ?
J'étais en train de discuter.
Mais vous êtes quoi, où, pauvre con ?
J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur.
Connard !
CO2, mon amour.
C'est terrible ce qui vous est arrivé.
Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim.
Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur.
Avec Denis Chessou.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours.
Tu leur as dit merci aux vaches.
Sur France Inter.
Et voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible.
Oui, ça réjouit déjà Sébastien Boller qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, c'est ça aussi, on a peut-être besoin d'un petit peu de sens, d'essayer d'en trouver. Et ça va être le thème donc de cette émission CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Alors il y aura une petite page de nature hein, quand même. On va aller cueillir des champignons avec un homme qui s'appelle Jean-Jacques Martin, ce sera dans la Touraine. Johanna Abric nous accompagne à la technique et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Xavier Pestuggia qui la réalise. D'abord, je tenais à vous remercier pour les nombreux retours la semaine dernière avec le jeune Mosellan, non pas Mosellien, comme ça avait été écrit sur le site, mais par erreur, non, Mosellan, bien sûr. Victor Noël, j'ai pas pu vous répondre à tous parce qu'il y en a eu beaucoup, mais en tout cas, un grand merci. Alors, journée du patrimoine, c'est la fête aux jeunes et aux vieilles pierres. L'occasion de se pencher, et pas que sur la tour de Pise, sur notre passé de constructeurs, de bâtisseurs, fierté et nostalgie mêlées pour affronter l'avenir. Alors, on incite l'Européen que nous sommes à s'arrêter et de courir tel un hamster dans sa roue pour prendre le temps de contempler, de réfléchir. Et contempler la nature aussi, bah oui, qui est notre premier patrimoine, duquel on a extrait des matériaux, puis construit des églises, des châteaux, des palais de reines, des manoirs pour ducs, des canaux, des lavoirs, des jets d'eau, des jeux de loto. Faut-il y jouer pour sauver les aqueducs ? En tout cas, pour la nature, c'est le grattage, le tirage permanent, le défonçage du vivant pour le transformer à tous les étages en entrepôt logistique, en champs de soja transgéniques qui nourriront nos bêtes françaises vivant à 80% dans des parkings pour animaux. De la nature, on fera des ronds-points, mais attention, 3.0, ah bah oui quand même, des hypermarchés, des cliniques pour soigner les gens du stress qu'on leur a fabriqué. Alors que diraient nos anciens s'ils nous voyaient nous agiter un écran soudé à la main ? Bah je sais pas, peut-être donnez-nous aussi des coquelicots, des oiseaux oriflammes, des rivières propres, des mers sans plastique pour les journées du patrimoine. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais au sommet de la tour Périgourdine là du 16e siècle, là, oui, regardez bien, il y a une nouvelle antenne 5G. Alors on la voit pas bien parce qu'elle est quand même plus petite que les autres. Et le contrat a été signé avec le propriétaire qui ne peut plus entretenir le château. Bah, ne me parle pas de la 5G si tu veux que nous restions bons amis. Refus de la modernité qui prime ? Non, pas du tout. Juste interroger le progrès sur la dite modernité. Car tout doit être connecté et les cerveaux s'adapter à la machine. Alors le monde d'avant n'attend pas, hein, foncez toujours, car dans les officines, le marketing affûte ses offres qui vont ringardiser la 4G et rouler futur SUV sans conducteur dont on vendra la pub sur votre radio préférée. Au-delà des risques environnementaux et sanitaires hein, qui ne sont pas assez renseignés, l'autre risque c'est quand même la protection des données. Le géant Huawei, donc fer de lance du techno-nationalisme de l'empire du milieu, a déposé des milliers de brevets. Et il peut très bien installer des portes dérobées dans nos systèmes pour le compte des renseignements chinois. Voilà. Donc des données à distance que l'on va pouvoir effectivement siphonner. Bon, une simple éventualité bien sûr. C'est où le frein ? Ah bah il n'y en a pas, il n'y en a plus. On l'a débranché. Ah bah oui, c'est la faute au striatum, je vais y revenir. Ouais, mais quand même, il y a un mur. Eh ben, je sais, ben, ferme les yeux. Et le moratoire ? Ah ben, il n'y en aura pas. On fera un débat une fois les fréquences vendues aux opérateurs à la fin du mois. Je te le dis, ne parle plus de la 5G si tu veux que nous restions bons amis. Alors, du plus rapide, du plus vite, dans un monde qui va déjà très vite, tenez, regardez le Tour de France. Envol surnaturel, dans les cols d'une jeunesse vertigineuse. Du slow dans les veines ? Non, un jeune slovène. Fusée potion magique dans les Champs-Élysées qui touche à la célébrité. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Bah après le tout feu tout flamme, voici la pluie quand même revenue s'égoutter, alors trop violente malheureusement quand la Méditerranée vient gifler le visage des Cévennes, ou bien légère et espérée, une pluie qui dépoussière la nature et les feuilles, l'air et la terre mouillée qui nous envoient leur gratitude d'odeurs souples et chaudes. Alors courage à vous dans le Gard, sinon profitez-en avec ou sans masque et respirez la vie. Bonjour à vous Sébastien Boller.
Bonjour Denis.
Voilà, je pense que ça vous a Je ne sais pas si ça vous a inspiré, cette histoire-là.
Énormément. Énormément. Non, je trouve que c'est un portrait qui résume parfaitement deux dimensions de notre comportement et de notre cerveau aussi. Vous avez mis les journées du patrimoine avec cette nostalgie pour quelque chose qui représentait une sorte d'ordre permanent, avec l'esthétique, avec la dimension cosmique aussi auquel se rattachaient ces bâtiments bien souvent. Et puis aujourd'hui, cette course au matérialisme. Et puis on n'arrive pas évidemment à faire durer ce passé auquel on reste attaché. Il y a un antagonisme entre ces deux dimensions et c'est le cœur de ma réflexion. Donc merci beaucoup de cette belle introduction.
Merci à vous Sébastien, docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Et donc vous avez écrit, donc ça a eu un énorme succès, ça a été donc le bug humain. Aujourd'hui c'est Où est le sens ? Donc les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation, totalement reliée à l'environnement. Hein. Donc là on est absolument en plein dedans. Et à l'époque dans le bug humain, vous avez fait découvrir donc ce défaut de conception de notre cerveau, le striatum, voilà, car les neurones en charge de notre survie, en fait, ils sont jamais rassasiés. Voilà, et c'est le siège du toujours plus, donc cette affaire-là. Et là, vous nous dites qu'il y a quand même peut-être aussi d'autres pistes avec, on a trouvé autre chose, enfin, vous mettez en avant quelque chose dans le cortex cérébral. Alors, le cortex, on le rappelle, hein, c'est ce qui produit l'intelligence, la réflexion, le langage, les inventions. Il continue à augmenter, celui-là, ou pas?
Le cortex cérébral, non, aujourd'hui, il a sa forme à peu près définitive. Ouais. On ne peut pas savoir s'il évolue encore, parce qu'il faudrait regarder sur des dizaines de milliers d'années. Mais en tout cas, il est déjà très, très abouti. Et c'est vrai que la destruction de notre planète, contre laquelle on n'arrive même pas finalement à se mobiliser, je l'avais analysé au début dans ce livre Le Bug Humain, en montrant que nous avions au cœur de notre cerveau cette espèce de boule de désir, là, le striatum, qui nous donne de la dopamine et du plaisir à chaque fois qu'on mange, qu'on consomme, qu'on domine les autres, qu'on fait moins d'efforts, qu'on se gave d'écran, parce que ça, c'est une envie de toujours plus qui a fonctionné pendant des millions d'années, mais qui aujourd'hui, face aux ressources finies, n'a plus aucune pertinence, est complètement inadapté. Donc ce striatum nous envoie dans le mur.
Parce qu'il n'a pas été conçu pour se limiter, celui-là.
Mais non, parce que si vous vous limitiez, quand vous étiez dans la savane du paléolithique, quand vous étiez un homo erectus, c'était la mort assurée. Il fallait au contraire prendre tout ce qu'on pouvait. Simplement, après est arrivé le cortex cérébral intelligent, capable de produire des technologies et capable de produire des rendements, par exemple, pour nourrir ce striatum de bons gros hamburgers, ou pour lui donner des écrans pour satisfaire sa soif d'information, ou des réseaux sociaux pour satisfaire son appétit de statut social, hein, qui est profondément ancré. Donc la conjonction entre ces désirs de puissance et de consommation qui a fait ses preuves pendant un moment, et puis l'arrivée sur la scène d'Homo sapiens du cortex cérébral qui a produit des technologies pour nourrir ça en boucle, a donné ce mélange catastrophique finalement qu'est l'homme moderne aujourd'hui, confronté aux limites de son environnement. Et arrivé à ce constat-là, qui expliquait beaucoup de nos incohérences, il y a un problème qui se pose. Il y a un double constat. Le premier constat, c'est que nous allons vers un effondrement de nos conditions de vie matérielle, de la biodiversité, de notre cadre de vie, un effondrement du monde.
Ça s'appelle sur la branche sur laquelle nous sommes assis. Exactement. Avec les excès que nous connaissons, dont on parle depuis une trentaine d'années, dans C'est haut de mon amour.
Oui, exactement. Et ça, c'est le premier. Mais le deuxième, sur lequel j'ai soulevé un coin du voile, c'est que c'est un effondrement psychique aussi. Parce que ce monde que nous avons créé en mettant en branle la machinerie de nos désirs avec la technologie comme appui, ce monde n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, quand vous voyez que les écrans ou les automobiles que vous achetez condamnent l'avenir de vos enfants, ça n'a aucun sens. Quand vous déplorez les pénuries d'eau dans l'avenir et que vous apprenez que...
Et même dans le présent d'ailleurs.
Même dans le présent. Et que à chaque jour qui passe, 1 milliard de tonnes d'eau douce se déverse en pure perte dans les océans par la fonte des calottes glaciaires, on est dans l'incohérence. Ça n'a aucun sens. Quand aujourd'hui les enquêtes sociologiques montrent qu'à peu près 70% de nos concitoyens vivent un conflit de valeurs dans leur travail, ce qu'on appelle le brownout, les bullshit jobs.
Alors ça, c'est drôlement important, Sébastien Boller, parce que donc effectivement, des gens sont en collision frontale entre ce qu'ils font, ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent, et ils veulent changer de vie, de boulot. Donc là, on est vraiment dans du besoin de sens pour ne pas s'effondrer en tant qu'humain, ce que vous dites.
En tant qu'humain, tout à fait. Donc il y a une contradiction dans la gestion de nos ressources, il y a une contradiction à l'intérieur de notre équilibre psychologique interne, et ce monde qui n'a aucun sens... Ce que j'apporte sur la table, ce que je soumets à l'analyse de mes concitoyens, c'est une donnée centrale de la constitution de notre cerveau. C'est la découverte d'une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, qui nous vient du fond des âges aussi, et qui est une machine à détecter du sens autour de nous. Qui va chercher du sens...
On se raccroche, là c'est la bonne nouvelle, on va dire. Hein.
C'est une bonne nouvelle, ça dépend ce qu'on va en faire.
Oui.
C'est une partie de notre cerveau qui cherche du sens à la fois dans l'organisation du monde, qui cherche à comprendre comment le monde fonctionne. Bah, les étoiles, les équilibres de la biodiversité, même comment fonctionnent les machines. C'est une partie du cerveau qui veut voir comment les choses marchent, qui a besoin de déchiffrer le réel. Deuxième plan du sens, dont cette partie du cerveau est assoiffée, c'est justement la cohérence interne en vous, en moi, l'adéquation entre ce à quoi on croit, nos valeurs, nos désirs, la conscience des enjeux, et puis d'un autre côté, nos actes. Quand les deux sont pas en phase, il n'y a pas de sens interne. Oui. Et toujours ce cortex singulaire antérieur cherche ça. Et le troisième plan du sens, c'est trouver de la cohérence dans nos rapports avec les autres. Et ça passe par des codes de vie en commun, qui sont partagés, sur lesquels on peut s'appuyer finalement pour s'entendre, pour mettre en place des projets collaboratifs.
Et c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure évidemment des rituels. Donc Sébastien Boller est avec nous. Où est le sens? Il y en a une toute petite partie peut-être dans cette émission, en tout cas il y en a beaucoup aussi sur France Inter. Musique peut-être? Oui, allez. Choisi par Thierry Dupin sur France Inter dans CO2 Mon Amour, c'était The Strokes, pas le troc, c'est bien ça c'est le nom du groupe, et Julien Casablancas, comme un Blancas, donc se soignait et chantait.
Alors Monsieur Robert, quel est votre plan pour l'emploi?
Eh bien écoutez, moi et mon parti, nous disons il faut créer des emplois.
CO2 Mon Amour.
Alors moi j'ai une idée, je propose qu'on invente un nouvel emploi.
Ah oui, quoi?
Mangeur de crottes.
Mangeur de crottes?
Oui.
Sur France Inter.
L'autre jour, dans un meeting, il y a un type qui me dit « Si on démolissait tous les bâtiments infos et qu'on se mettait à nettoyer la planète, il y aurait du boulot pour tout le monde pendant 500 ans. Vous vous rendez compte? Oui, c'est qui ça fout? Non, faut rien changer. Mangeur de crottes, c'est très bon, ça. »
Avec Denis Chessou.
Faut dire que tout est possible aujourd'hui. Après tout, pourquoi pas? Est-ce que ça donne véritablement du sens? On ne sait pas dans ce monde complètement dingue, dans ce foutoir accéléré qui est sans certitude. Sébastien Boller donc nous gratifie de cet ouvrage aux éditions Robert Laffont qui s'appelle « Où est le sens ?». Alors c'est vrai que nous sommes câblés en fait pour avoir du sens et en fait, on n'en trouve pas beaucoup en ce moment.
Oui, je crois que c'est la donnée principale à laquelle il faut s'attaquer, c'est que l'être humain, grâce à ses découvertes en neurosciences, nous apparaît comme un être biologiquement fait pour le sens. Ça nous vient de très très loin, ça fait des centaines de milliers d'années que cette partie du cerveau s'est constituée, parce qu'elle repose sur des gènes qui sont notre patrimoine commun. Tous les humains ont ces gènes assoiffés de sens. Pourquoi ? C'est parce que à l'époque où nous n'avions pas encore des moyens technologiques démesurés, trouver des représentations du monde qui tiennent debout, qui nous rassemblent autour de pratiques communes, des codes de vie en commun, était absolument nécessaire pour coopérer. Donc ça a été absolument vital. Et c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que le sens aujourd'hui n'est pas un luxe, c'est vital. Si nous ne nourrissons pas cette partie de notre cerveau, nous sommes morts. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards, mais c'est une accumulation de corps, mais ça fait pas forcément des gens vivants. Il faut bien comprendre que pour être pleinement vivant, nous devons nourrir cette partie de notre cerveau qui demande du sens. Nous sommes des êtres de sens dans un monde qui n'a aucun sens, et cette partie de notre cerveau qui n'est pas alimentée souffre. Et comme elle souffre, elle détruit. Et c'est là qu'on arrive dans les comportements qui sont des palliatifs au sens. On comble le vide de sens par une accumulation de biens matériels.
Que ce soit de la drogue, des opiacés, voilà. Des biens matériels, etc.
La drogue va apaiser cette partie de notre cerveau. Ouais. La technologie aussi, parce que chaque objet technologique nous donne l'illusion du sens dans la connexion mécanistique entre le geste et le résultat. Donc c'est rassurant parce que les choses semblent déchiffrables. Elles le sont à une petite échelle, mais à long terme, évidemment, elles aboutissent à des contradictions. Donc il va falloir nourrir cette partie de notre cerveau par des moyens qui vont vraiment titiller en profondeur notre besoin d'appartenance et de sens.
Mais alors Sébastien Boller, dans notre société moderne, donc l'avancée de la science et de la technologie ont permis de maîtriser donc beaucoup d'incertitudes, hein, dont la question du sens. Alors après, le cerveau est évacué.
Oui, parce que notre cerveau, fondamentalement, veut du sens. Pourquoi au départ ? Parce que ça lui permet de comprendre le monde où il vit, à la fois le monde physique et le monde social. Hein. Les pratiques qui ont du sens, les pratiques rituelles, les religions, les moments de communion, même républicaines, toutes sortes de vecteurs de sens sont possibles, permettent aux gens, finalement, de réduire l'incertitude sur la façon dont la société va se comporter, pour éviter ce que Émile Durkheim appelait l'anomie, cette espèce de moment où on ne sait pas, finalement, quelles sont les règles du jeu en société. Aujourd'hui, on vit l'anomie parce qu'il n'y a pas de règles autres que le chacun pour soi et la concurrence. C'est pour ça que c'est extrêmement délétère. Donc, il va falloir remettre des codes communs de vie en commun, qui reposent notamment sur des valeurs morales partagées, très important ça, pour éviter le sentiment d'incertitude dans le jeu social. Et malheureusement, notre bon vieux striatum, lui, a fabriqué des appareils technologiques pour nous donner l'illusion de la certitude par le contrôle sur le monde réel. Aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus continuer comme ça, et qu'il donc il va falloir revenir à des schémas rassurants qui domestiquent l'incertitude à travers le sens de vision du monde partagée.
Parce que ça, évidemment, vous le rappelez en permanence, c'est qu'on a quatre aliments qui sont assez démoniaques, c'est-à-dire la compétition, l'accélération, l'incertitude et la consommation avec l'obsession de posséder et d'exploiter. Donc ça, c'est pas forcément nouveau, mais c'est toujours évidemment très très bien de le rappeler. Il y a un principe philosophique qui dit tout simplement être riche ou sage, il faut choisir. C'est un peu ça. Donc,
Oui, mais alors, voilà, parce que on a choisi d'être riche parce que c'était finalement un programme de civilisation qui reposait sur l'idée que on allait obtenir le bonheur pour tous à travers la prospérité matérielle. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus tenable.
Et que disons que ça l'a été, mais ça l'est plus.
Ça l'est plus. Ouais. Ça l'est plus. Donc, on peut plus continuer de cette façon. Et la question, c'est comment accepter de renoncer finalement à cette illusion de bonheur par la possession, tout en trouvant des raisons de vivre. La question, elle est là. Même si nos comportements, même vertueux, ne suffisaient pas à enrayer le processus de dégradation qui est engagé, il faudrait se poser la question, si on vit avec moins de biens matériels, par quoi est-ce qu'on peut remplacer ça ? Et là, notre cortex singulaire a la réponse. Parce que s'il trouve un sens à la vie en commun, s'il trouve un moyen de se rassembler autour d'un schéma d'interprétation du monde. Aujourd'hui, c'est complètement fragmenté. Chacun a sa propre interprétation du monde. Il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte que chacun, il y en a ceux qui croient que la Terre est plate, d'autres qui croient qu'il y a des complots pour les vaccins, d'autres qui croient... Chacun a sa propre vision du monde et
une
donc on se rassemble pas.
Une vérité scientifique, de toute façon, est égale à une opinion aujourd'hui aussi. En plus.
Voilà. Et ça, c'est extrêmement délétère. Parce que ce que montrent les études sur le cortex singulaire antérieur, c'est que lorsqu'on a le sentiment qu'il n'y a pas un ordre sous-jacent, à la fois dans l'univers et dans le monde social, on va en reconstruire à sa façon. Et il y a des expériences très troublantes qui montrent qu'on le refait notamment en tissant des liens entre des événements qui n'ont pas forcément. Et donc ça donne les théories du complot. Ouais. Théorie du complot, c'est on croit distinguer un ordre alors qu'il n'y en a pas forcément. C'est un réflexe du cerveau qui veut recréer un semblant de sens dans un monde où il n'en trouve plus.
Alors il s'agit en fait de chercher le mécanisme, on va dire, du balancier hein, qui va associer la consommation et donc le sens. Parce que vous, en fait, vous dites on ne se défera jamais de notre anthropocentrisme. Ça, faut l'accepter. Dites on essaye. Enfin, ça marche pas quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne pas. Donc effectivement, essayons de retrouver un balancier, un équilibre et de mettre le curseur au bon endroit.
Oui, et le mouvement de balancier entre le cortex singulaire et le striatum, donc entre le sens et le désir de consommation matérialiste, on le voit très bien dans le besoin d'être rassuré. Quand on ne trouve pas de sens à notre existence, on cherche à se rassurer en augmentant son estime de soi. C'est-à-dire l'image qu'on a de soi-même, parce que c'est un moyen de se dire qu'on fait toujours partie du groupe, hein, du groupe social, de ne pas se sentir exclu, c'est une préoccupation très présente chez nos concitoyens, dans un monde où c'est un peu la loi de la jungle, la grande crainte, c'est l'exclusion. Et donc, pour ne pas se sentir exclu, on va développer son estime de soi. On est dans la culture de l'estime de soi. Tous les magazines de psychologie n'arrêtent pas de proposer des moyens pour rehausser son estime de soi. Et un moyen de le faire, le principal, c'est l'acquisition d'objets de luxe. Aujourd'hui, quand on a une estime de soi chancelante, on va chercher à rehausser son statut social en acquérant des baskets griffées, des automobiles prestigieuses. C'est une manière finalement de se rassurer par rapport au manque de logique qu'on trouve dans le monde qui nous entoure et devant une société qui ne nous propose pas de code clairement déchiffrable pour savoir comment se comporter vis-à-vis des autres afin de faire partie du groupe.
Alors, la place de la nature dans tout cela, ça c'est aussi intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est fort. Et moi, ce que je vous propose, donc, parce qu'histoire de pressentir l'ordre sous-jacent de la nature, comme la promesse de cette émission, c'est avant tout, vous le savez, 90%, donc un magazine de nature, d'environnement, et bien on va respirer avec un homme qui s'appelle Jean-Jacques Martin, et c'est une escapade qui pourrait sentir la pimprenelle, la sauge, mais ça va être plutôt les sous-bois, parce que notre homme, donc, est dessinateur, il travaille pour le théâtre, c'est un marieur de mets et de mots, c'est un fils d'agriculteur, il est compagnon charpentier Tourangeau. Mais attention, hein, on est de la Haute-Touraine aux confins du Berry, on n'est pas loin du Grand Pressigny. Et donc nous partons avec Jean-Jacques Martin découvrir son univers de champignons. C'est la saison.
La Touraine, c'est un énorme jardin de champignons. Il y a tous les saprophytes, même encore quelques amanites.
Ah, vous êtes champignologue ? Enfin, comment on pourrait dire ?
Oui, je ne suis pas un érudit, moi, je ne suis pas un mycologue. Mais champignologue, ça me plaît bien. C'est une vieille expression du 19e. On disait champignologue. Oui, c'est vrai. Mais c'est très bien.
Je n'ai pas fait exprès.
Je suis fier d'être un petit peu champignologue. Moi, je suis surtout un trouveur, parce que j'ai un petit côté chasseur, c'est mon côté paysan qui fait qu'ils ne me font pas trop de blagues. Je les sens même la nuit. Je vais la nuit aux champignons, parce qu'ils dégagent plein d'odeurs.
Alors, on va rentrer dans votre forêt, enfin, votre forêt, c'est pour la vôtre, mais... Alors là aussi, d'ailleurs, il faut peut-être faire attention, parce que logiquement, il faudrait demander l'autorisation des propriétaires.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de chasseurs dans cet endroit. Le respect des deux côtés est une valeur sûre pour cueillir le champignon.
Attention.
Toute l'année, il y a des champignons ici. Bien sûr, il faut un petit peu d'eau, mais à partir des morilles, des tricolumes de la Saint-Georges, ensuite, c'est jusqu'au mois de février où il y a les tubioformis, ces petites trompettes que les gens appellent un peu jaunes.
Alors ce que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Martin, c'est que quand vous vous approchez d'un de vos lieux, vous faites pas de bruit, pour ne pas effrayer le champignon.
Tout à fait. Oh, il n'y a pas besoin de faire du tapage en forêt. Il faut écouter les arbres qui murmurent. C'est beau aussi. C'est vrai que pour voir les champignons, de lui, on n'a pas regardé tellement par terre, on regarde dans l'air. On regarde, car ce sont les essences, souvent des différents arbres qui nous donnent effectivement l'endroit. Sous des conifères, on n'ira pas chercher la même chose que en ce moment dans cette forêt de fiers. Nous allons aller vers les conifères pour trouver d'autres champignons. Ici, voyez-vous, c'est les bolets, les imbosselés, enfin les pieds de mouton, tout ça. La girole, bien sûr. Ah, on n'a pas trouvé de girole. J'espère qu'on va en trouver une petite parce qu'elles ont encore poussé. Elles repoussent encore. Et ici, vous allez pouvoir en trouver.
Alors, il se reproduit avec ces petits filaments que l'on voit, c'est ça?
Ah oui, oui.
Au pied?
Eh oui, c'est ça.
C'est le mycélium?
Il y a le mycélium, il y a les spores, les petites choses qui volent au vent, qui se déposent, qui gonflent et qui refont. C'est comme une sorte de graine. Oui. Vous savez, c'est pas trop compliqué. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Faire attention aux essences. Aloe champignon, la tête en l'air. C'est pas un vain mot.
Hein,
c'est...
Oui, moi je fais attention, je mets les pieds. Hein, parce que... oui, là, par exemple, je ne connais pas, il y a une petite tranchée.
Ça s'appelle une reuille ici.
Ah, c'est une reuille.
Voilà.
Alors, pour moi, c'est une tranchée. Allez hop. On a sauté la reuille. Ah, je l'entends.
Attention, attends, bouge pas, c'est un peu. Alors fais attention parce qu'à droite il y a une souille. Fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de petits trous d'eau.
Ah, oui.
Voilà, pour les animaux surtout. Maintenant, ce qui est formidable, c'est nous allons faire quelques champignons des prés, parce que là, ceux-là sont déjà là depuis 5-6 jours, disons. Les autres poussent bien.
Alors là, nous traquons le champignon sauvage, mais le champignon s'élève, quoi. On a eu des dresseurs de champignons.
Oui, en Touraine, il y a forcément ce qu'on appelle les champignons de Paris. Il y en a un petit peu avant, mais dans toute la vallée de la Loire, il y a des caves sur les coteaux. Là, la Loire coule, engoncée dans ses turcis, tu as de chaque côté des caves où les champignons, là, vraiment sont heureux. Alors, on retrouve, bien sûr, les champignons de Paris, qui sont des agariques. Et puis, on trouve des pleurotes. Enfin, on trouve plein de champignons qu'on arrive aujourd'hui à maîtriser, vraiment. Mais en revanche, il y a des champignons qui sont très drôles. Tout à l'heure, nous sommes passés devant... Vous avez dit que ça sentait un petit peu fort. Oui. Eh bien, c'est un phallus impudique. Voilà. Alors, certains arrivent le manger à l'état d'œuf, en enlevant la petite gelée, le manger, ça le goûte un peu, le radis noir. Enfin, là, c'est pareil, faut pas manger tout ce qui se présente, même si c'est indifférent ou peu comestible, enfin, parce que... Mais comme ça, je trouve ça très joli dans la forêt. Hein, des petits faunes comme ça peuvent effectivement se prendre.
Les champignons sont souvent, on le voit dans des histoires pour enfants et autres, les amis par exemple des lutins, des elfes, des trolls.
Oui, je crois qu'il y a une chose, c'est la surprise. C'est vrai que un matin tu te réveilles, toute ta pelouse est recouverte de champignons et tu sais pas trop pourquoi. Et tu penses forcément au surnaturel. Moi, je vois ici toutes les menteries du village ici. Tout ça, c'est presque à la base de champignons. Moi, j'ai un cousin qu'on appelait le cousin Georges, qui était un conteur magnifique à Chaumussé et qui pouvait de temps en temps descendre prendre son petit verre au vin sans eau, qui était le café de notre village.
Et le vin sans eau.
Au vin sans eau. Et oui, et c'était le café formidable de Chaumussé. Mais il voyait des fois des champignons et il nous racontait une histoire forcément lorsqu'il arrivait. Je me souviens qu'il avait trouvé une morille énorme qui avait soulevé l'asphalte par exemple.
Ah.
Donc ça devient des fois des champignons formidables. Je veux dire que même les menteries sont merveilleuses parce qu'elles sont alimentées par tous ces saprophytes. Pour les champignons, il faut éviter de mettre de l'ail. On peut mettre quelques cailloux ou un soupçon d'ail pour réveiller les chalotes, mais surtout ne pas mettre beaucoup d'ail dans les champignons. Les grands chefs, de toute manière, lorsque vous rentrez dans un restaurant, et si un chef n'a pas mis d'ail ou très très peu, vous dites là, il y a un chef.
Ah.
Mais c'est vrai, c'est des petits détails comme ça qui fait qu'on sent les gens qui font attention aux choses, de ce que la nature nous offre.
Un homme formidable, Jean-Jacques Martin, qui aime aussi croquer, donc avec ses dessins, ses champignons. Alors, je vous rassure, nous, on a trouvé des gentils, hein, mais le champignon, vous le savez, peut devenir un auxiliaire de roman policier très efficace et silencieux pour vous expédier un chapitre ou bien un suspect. Cette notion quand même de nature, pas forcément de champignons, mais de nature au sens plus large, Sébastien Boller, elle paraît très indispensable. C'est-à-dire que maintenant, la science vous a prouvé que quand même, l'apaisement venait aussi de la contemplation. De la nature, de l'émerveillement.
Oui, la nature devient et va devenir de plus en plus un support du sens. On le voit à deux niveaux. D'une part, à travers ce témoignage qui nous révèle quelque chose de très précieux, c'est que dans cette activité, il y a en fait énormément de connaissances. Il nous parle d'endroits qu'il connaît, de souilles, de sangliers, d'arnes. L'être humain, en fait, depuis ses origines, depuis des centaines de milliers d'années, se repère dans son environnement. Et donc, il y discerne une logique. Et donc, le moment où la nourriture est prélevée de la nature, par exemple, apparaît comme un moment logique, qui n'est pas arbitraire. C'est pas comme quand on va simplement dans un supermarché, qu'on prend, qu'on met dans le caddie, qu'on sait pas comment ça a été fait.
Non.
Quand on sait la façon dont un champignon pousse, ou quand on est connecté à sa terre, quand on fait pousser ses légumes, chaque acte est connecté aux autres. Et cette logique...
C'est pas un plat industriel préparé.
Non.
Dont on ne connaît pas d'ailleurs l'origine des ingrédients, et actuellement les industriels ne veulent surtout pas que l'on puisse indiquer sur étiquette quelle est l'origine et la provenance de ces fameux ingrédients.
Oui. Et les effets sont décisifs, parce que quand vous arrivez à faire le lien entre ce que font vos mains, vos yeux et ce qui arrive dans votre assiette, il y a une séquence logique déchiffrable pour notre cortex singulaire antérieur qui est fondamentalement apaisant, et on sous-estime beaucoup cet aspect. L'autre aspect très important, c'est la dimension d'émerveillement, évidemment, qu'on vit à la fois devant le spectacle de la nature quand on ne connaît pas bien la nature, et encore plus quand on la connaît. L'émerveillement, alors il y a des études d'imagerie cérébrale récemment qui ont montré que c'est fabuleux, parce qu'il a un effet apaisant qui cible justement ce cortex singulaire antérieur, et qui fait qu'on peut très bien vivre avec très peu de choses. L'émerveillement agit comme une nourriture qui dispense d'aller chercher, par exemple, des outils technologiques pour s'amuser. C'est une ressource fondamentale. On va avoir besoin de ça. Ça peut vraiment faire basculer notre schéma civilisationnel d'une surenchère matérialiste vers un bonheur avec très peu de choses. C'est pas juste de la philo, c'est de la neuroscience.
Alors, les nouvelles formes de sens, elles ont subi plusieurs mutations, hein. Vous nous rappelez qu'au tournant du néolithique, donc il y a à peu près 10 000 ans, donc on va dire qu'on est passé d'un sens cosmique. Alors, cosmique, on peut entendre par sens des origines de la nature, des étoiles, des esprits des animaux. On est passé à un sens social. D'ailleurs, en fait, ils se sont juxtaposés. Donc, le sens social, ça a été les grandes civilisations, les villes, la concentration, l'anonymat de la foule aussi, mais les rituels, parce que ça c'est très important, vous insistez beaucoup sur la fin du livre dessus, les rituels collectifs, c'était le pivot de la vie sociale, et ça apaise donc notre cortex qui est chauffé à blanc, peut-être par l'arrivée de nouveaux inconnus, etc. Donc maintenant, quel rituel faudrait trouver, enfin, sur quoi on peut s'accorder, oui, aujourd'hui, dans un monde qui est quand même merveilleusement délité en tous les sens, et c'est pas la mondialisation qui va devenir un sens pour les gens peut-être qui nous écoutent.
C'est très important, les rituels. Ça vient de la longue histoire du sens. C'est-à-dire que le sens n'est pas apparu du jour au lendemain dans la cervelle des hommes modernes. Le sens, on en voit déjà les prémices chez d'autres animaux. Chez un singe qui explore son environnement et qui prend l'habitude de repérer que certains endroits sont associés à certains fruits, par exemple. Donc, il fait des prédictions sur l'avenir grâce à son cortex singulaire. Et donc, il est moins vulnérable à l'incertitude. Il anticipe ce que son environnement lui prépare. Et comme il est la première fonction du cortex singulaire antérieur, c'est de diminuer l'incertitude. Donc, il le fait déjà en repérant des liens de causalité dans l'environnement naturel. Et puis ensuite, quand l'être humain se développe et commence à vivre en société, le but du cortex singulaire antérieur, c'est de réduire l'incertitude associée aux autres. Parce que effectivement, au néolithique, dans les premières cités de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'habitants, pour la première fois, Homo sapiens est confronté, comme vous le disiez, au phénomène de l'anonymat. Vous rencontrez des gens, vous ne savez pas comment ils vont se comporter avec vous, parce que vous n'êtes pas né dans le même groupe humain traditionnel. Et donc, il va falloir pouvoir faire des prédictions sur le comportement des autres et lutter contre l'incertitude sociale. Et là, les rituels sont une invention qui datent de cette époque-là, les rituels collectifs, qui réduisent le désordre et l'incertitude. Dans les assemblées qui pratiquent des rituels, chacun fait la même chose, les mêmes gestes, et donc l'autre ne représente plus la même incertitude que dans un chaos social.
Alors si on a besoin d'un sacré, d'un sacré, on va dire, moderne, hein, qui passe pas forcément par... Parce que donc on a tué Dieu, dans un sens, et, enfin, pas pour tout le monde, mm-hmm. Je veux dire que pour beaucoup de personnes, ça a été ça, donc ça a été la connaissance, la science. Vers quoi... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que l'on n'a qu'une seule terre ? Parce que ça, c'est ce que vous dites aussi, et que quelque part, il faut quand même, non pas la sacrifier, ce que l'on est en train de faire, mais plutôt la sacraliser.
Voilà, alors vous avez prononcé le mot, le sacré. Alors, le sacré, en anthropologie, c'est un ensemble de valeurs qu'on considère comme fondamentales, incontournables, et qui basent toute l'action morale, sociale, collective. Les valeurs sacrées, elles permettent de fonder la coopération, l'action de groupe et la confiance.
Que ce soit d'ailleurs une troisième mi-temps localement pour un groupe de rugby dont vous parlez, aussi une espèce de c'est du petit sacré, mais c'est quand même du sacré.
Le sacré est le ciment des groupes. Ouais. Ça n'a pas forcément une notion transcendantale. Hein. C'est juste ce quoi on s'accorde. Aujourd'hui, dans notre malheur, on a une chance, c'est qu'il y a le phénomène de l'identité globale qui est en train d'émerger, c'est-à-dire que tout le monde en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, se retrouve à un moment confronté aux mêmes menaces, avec les mêmes connaissances sur ce qui va provoquer le salut ou la disparition. Et donc les valeurs sacrées aujourd'hui peuvent être repensées de cette façon-là. Qu'est-ce qui peut être considéré comme des valeurs incontournables qui fondent l'action collective ? Aujourd'hui, ça peut être par exemple, au lieu de dire tu ne tueras point, mais tu n'émettras point de carbone. Ça peut être un nouveau commandement. C'est un peu déstabilisant parce que finalement, ça suggère qu'on pourrait passer d'un humanisme à un autre système de valeurs qui engloberait non pas seulement l'humain, mais l'ensemble des espèces vivantes.
Alors vraiment, moi je vous renvoie à cet ouvrage parce qu'on pourrait le décortiquer et y aller encore pendant une heure, deux heures. Ça change complètement des bouquins parfois qu'on soit du genre comment éviter de crever pour les nuls. Vous voyez, donc non, c'est quand même bien. Merci à Xavier Pestudia, à Camille Blanès, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis la semaine prochaine, je vous emmènerai avec un homme qui s'appelle Fred Bernard en Côte d'Or, à Savigny-les-Beaunes, vous verrez. Le Twitter Denis Chessou, vous pouvez bien sûr écrire. Le podcast, aussi bien pour L'As-tu lu mon petit loup que CO2 mon amour, vous en avez l'habitude. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.
CO2 mon amour, avec le WWF. Ensemble, préservons l'équilibre des forêts. Rendez-vous sur www.fr.